Voilà, donc ce soir, m'entretenir avec vous de la difficile question de la question de la mort, hein, avec ce titre de la perspective de la mort ôte-t-elle tout sens à l'existence? Voilà, c'est vrai qu'il n'est pas facile de parler de la mort, alors vous m'excuserez bien toutes mes maladresses et surtout toute mon inexpérience en la matière, évidemment, mais je crois que là-dessus, nous sommes à égalité, puisque aucun d'entre nous ne peut en témoigner directement. Et je commencerai par une citation de Pascal qui clôt ses pensées sur le divertissement, en tous les cas dans la version de la Pléiade, où il dit ceci: Le dernier acte est sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste. On jette enfin de la terre sur la tête et en voilà pour jamais. Le dernier acte est sanglant. Ce qui est intéressant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste. La comédie en tout le reste. L'apparence, le rôle, voilà, le dernier acte est sanglant. On jette de la terre, on a l'impression de voir Antigone. Je reparlerai d'Antigone, mais on a l'impression de voir Antigone qui jette sur son frère un peu de terre et en voilà pour jamais. Ça nous rappelle donc qu'il y a une certitude absolue, aussi certaine que nous existons, c'est que nous allons mourir. J'espère que je ne l'apprends à personne. Nous allons mourir. La question, c'est de savoir quand. Bien, on ne sait pas. Bientôt. Mais quand? En tous les cas, ce sera toujours trop tôt. Ce sera toujours trop tôt de notre point de vue, pour nous, où la vie nous paraît brève, de notre point de vue. Ou bien, quand c'est l'autre qui meurt, on en parlera. C'est de toute façon toujours trop tôt. Tout homme, dit Nicolas Grimaldi dans un livre qui s'appelle Bref traité du désenchantement, tout homme meurt métaphysiquement en sa jeunesse. Tout homme meurt métaphysiquement en sa jeunesse. Souvent, et on l'espère chronologiquement aussi, non, justement, à l'inverse, pardon. Parfois, chronologiquement aussi, on meurt à sa jeunesse. Et là, la mort semble se doubler d'un scandale. Celui, on pourrait dire, d'avoir fauché la jeune pousse, la promesse de vie, le dynamisme, la création. Et on a l'impression qu'ici, la mort ne prend pas les bons. La mort s'est trompée. La mort s'est trompée. Elle ne prend pas ceux qui l'implorent, ceux qui la réclament, voire même ceux qui la méritent. Elle ne prend pas ni l'impotent, ni le criminel. Et on a l'impression qu'elle s'est trompée de candidat, que ce n'était pas le bon. Et on retrouve cette idée dans le dialogue des Carmélites, si vous vous souvenez. La prieure dit d'ailleurs qu'elle s'est préparée pendant des années, qu'elle a médité des années sur la mort et que cela ne lui sert de rien maintenant qu'elle va mourir. Elle a une mort pitoyable, au sens il faut fermer les fenêtres parce que ça va choquer les jeunes novices dans la cour. Sœur Constance va dire à Sœur Blanche de la Force, elle va lui dire ceci à propos de la mort de la prieure: On dirait qu'au moment de la lui donner, le bon Dieu s'est trompé de mort. Comme au vestiaire, on vous donne un habit pour un autre. Oui, ça devait être la mort d'une autre, une mort pas à la mesure de notre prieure, une mort trop petite pour elle. Elle ne pouvait seulement pas réussir à enfiler les manches. Le bon Dieu s'est trompé de mort. Comme on peut en avoir le sentiment lorsqu'effectivement elle fauche en sa jeunesse l'être qui était plein de promesses. C'est que d'une certaine façon, la mort, on le sait, elle frappe indistinctement. Elle frappe indistinctement, sans état d'âme, sans considération de classe. Elle touche le riche, le pauvre, tout le monde, celui qui est dans la joie comme celui qui est dans la tristesse. Peu importe, on a l'impression que la mort aplanit toutes les choses. Elle aplanit tout, et on a d'une certaine façon rien à faire valoir devant. Et c'est là où il y a une petite histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais en tous les cas elle est belle, donc elle vaut le coup que je vous la raconte. On dit qu'Alexandre le Grand, au moment de mourir, alors peut-être que vous la connaissez, convoqua ses généraux et leur communiqua ses dernières volontés. Et il a voulu trois ultimes exigences. Donc, on ne sait pas si elles ont été respectées. Mais en tous les cas, dit-on trois ultimes exigences. Un, que son cercueil soit porté à bras d'homme par les meilleurs médecins de l'époque. Deux, que les trésors qu'il avait acquis soient dispersés tout le long du chemin jusqu'à sa tombe. Et trois, que ses mains restent à l'air libre, se balançant en dehors du cercueil à la vue de tous. Oui, c'est assez bizarre. Mais si ça vous interroge, les généraux à qui il a demandé ça se sont aussi interrogés. On lui a demandé, donc il avait à peu près 33 ans, je crois qu'il est mort à 33 ans, Alexandre le Grand, lui ont demandé, mais pourquoi ? Et il aurait répondu ceci, « Je veux que les médecins les plus éminents transportent eux-mêmes mon cercueil pour démontrer ainsi que face à la mort, ils n'ont pas le pouvoir de guérir. » Ils n'ont pas le pouvoir de guérir. Ils reportent, certes, ils prolongent pour notre bonheur, mais ils n'empêchent pas de mourir. « Je veux que le sol, dit-il, soit recouvert de mes trésors pour que tous puissent voir que les biens matériels ici acquis restent ici-bas. » On n'emporte rien. On n'emporte rien dans la tombe. On n'a rien à faire valoir de ce point de vue-là. Et troisièmement, le plus surprenant, hein, les mains pendantes. Je veux que mes mains se balancent au vent pour que les gens puissent voir que les mains vides, nous arrivons dans ce monde et les mains vides, nous en repartons quand s'épuise pour nous le trésor le plus précieux de tous, le temps. Donc les mains vides, nous arrivons nus dans la vie, nous repartons en quelque manière nus, les mains vides. Alors évidemment, c'est une belle sagesse qu'on envierait de nos jours, car il me semble, mon introduction sera un tout petit peu étendue pour essayer de poser le problème, la résolution sera peut-être plus courte. En tous les cas, notre époque a un certain problème vis-à-vis de la mort. Elle a un rapport paradoxal. Et je voudrais vous lire un passage qui exprime un petit peu ce paradoxe tiré d'un livre là, de Fabrice Hadjadj qui s'appelle « Réussir sa mort », dont le titre est assez surprenant d'ailleurs, puisqu'on achèterait et on écrirait volontiers « Réussir sa vie ». Ça semble plus vendeur. En même temps, peut-être qu'il faut s'interroger sur le fait que réussir sa vie, c'est peut-être aussi réussir sa mort. En tous les cas, qu'il y a un lien entre les deux. Et voilà comment il exprime cela, ce paradoxe de notre société. Nous mettons, dit-il, à l'écart les mourants réels. Nous multiplions sous nos yeux les morts fictives. Et nous distillons l'utopie scientiste d'une terrestre immortalité. On met à l'écart les mourants, on multiplie les morts fictives sous nos yeux et on distille l'utopie scientiste d'une terrestre immortalité. Mise au rebut d'abord, le mourant n'est plus considéré comme un vivant. Le vieillard n'a droit de cité que s'il se comporte comme un jeune. C'est le jeunisme. De quel raffinement nous faisons preuve alors, nous élevons un être dans l'oubli de sa mort et soudain, quand cette mort approche, nous le laissons à lui-même. Et nous pouvons observer avec les troubles délices d'une compassion épidermique dans quel effarement notre cobaye se débat. Comment ne nous demanderait-il pas de le tuer tout de suite ? Dans notre obligeance, nous ne manquerons pas de le faire, sûrs de répondre ici aux requêtes de la dignité humaine. Et c'est vrai que dans notre société, le problème de l'euthanasie est un problème qui se pose vraiment, qui va se poser, enfin, qui se discute, et qui n'est pas anodin dans notre rapport à la mort. En tous les cas, une conception de ce qu'on appelle la bonne mort. On y reviendra. Mais, dit-il, cette occultation ne serait pas assez efficace si elle ne se doublait d'une banalisation. La mort est banalisée. Il faut encore croire, les morts spectaculaires sont partout sur nos écrans. Donc il y a un rapport contradictoire ici qui est soulevé entre d'un côté une mort qu'on cache. Il est vrai que voir un mort réel, veiller un mort, est devenu, on pourrait dire, une chose très rare. Moi-même, si vous voulez un témoignage, j'ai pu voir, mais pas par curiosité, mais être auprès d'un mort vers l'âge de 35-36 ans, ce qui est finalement très âgé par rapport à des époques où, d'une certaine façon, on visitait, on mourait dans la ferme d'à côté, et ben on allait voir les personnes qui étaient là, on allait prendre le café et évidemment, passer dans la chambre du mourant, chambre dans laquelle d'ailleurs il était né, souvent, on mourait dans la chambre dans laquelle on était né. Et finalement, le rapport vivant-mort était non pas banal, mais disons plus naturel. On pense souvent que les enfants vont être traumatisés par la vue d'un mort. Alors, on ne va pas effectivement aller voir le grand-père avec des enfants trop jeunes, hein, par exemple. Je ne suis pas sûr que ce soit effectif, que ce soit réellement traumatisant. Mais toujours est-il que notre société, effectivement, cache le mort. Et d'un autre côté, évidemment, on le futilise. Il s'étale sur nos écrans de télévision, que ce soit dans les journaux, même si maintenant ils essayent de faire attention, mais que ce soit dans les films, le nombre de morts qu'on voit dans les films, dans des fictions, certes, mais dans les films, il y avait eu des statistiques effarantes qui étaient sorties à une époque où, je ne sais plus, en une semaine, on voyait je ne sais plus combien de milliers de morts, évidemment violents, morts violentes, voilà. Et puis, les jeux vidéo, où il y a certains jeux vidéo qui sont même interdits aux moins de 18 ans parce qu'ils sont trop violents. Parce que là, effectivement, c'est nous qui tuons, c'est nous qui sommes derrière l'écran et nous disséminons la mort un peu partout. Alors, en tant que cachet, la mort, on a l'impression, elle se vit, elle se déroule dans un milieu aseptisé, technique, qui est l'univers médical. Et je vous lis un petit passage d'un livre très intéressant du cardinal Ratzinger qui s'appelle « La mort et l'au-delà ». Où, dans sa deuxième partie, il pose bien le problème. C'est intéressant de voir comment il le pose. Il nous dit ceci. Cette tendance à cacher la mort se trouve efficacement renforcée par la structure même de la société moderne. Les liens de famille y sont de plus en plus distendus par la logique de la production et par les spécialisations qu'elle développe. La famille, qui souvent ne se réunit plus que pour dormir, se disperse dans la journée. Elle ne peut pas être le lieu sécurisant qui rassemble les êtres pour la naissance, la vie, la maladie et la mort. La maladie et la mort deviennent donc des problèmes techniques particuliers que l'on traite adéquatement dans les établissements prévus à cet effet. Maladie et mort, et on pourrait rajouter naissance, comme je l'évoquais tout à l'heure. Ainsi, ces phénomènes humains, fondamentaux, ne sont pas marginalisés seulement au plan de la conscience, plan de notre conscience, de notre rapport à ces événements fondamentaux, mais au plan des structures sociologiques, dit-il. Ce ne sont plus des problèmes physico-métaphysiques à supporter et à surmonter dans le cadre d'une vie commune, mais des tâches techniques traitées techniquement par des techniciens. Alors, fin de citation. Il semblerait ici qu'il y ait un certain appauvrissement du point de vue d'une certaine perte humaine, un appauvrissement d'un point de vue relationnel, qui pourrait parfois, dans certaines circonstances même, être monstrueux. En tant que médiatisé, à l'inverse, la mort est un spectacle. Un spectacle, et peut-être qu'ici, où la plupart doivent s'en souvenir, de cet enfant mexicain dont on avait filmé les derniers instants, en fait, lors, je crois que c'était du tremblement de terre de Mexico, dans les années 80, 90, non ? Ou avant ? Bon, voilà, et qui avait fait scandale, d'ailleurs, le fait de montrer la mort en direct, comme si la mort venait, on pourrait dire, l'excitant, pimenté, qu'on oppose à l'ennui de la vie quotidienne. Voilà. Un peu de piment dans nos nouvelles. Alors évidemment, ça va avoir des conséquences sur la vision qu'on a de la bonne mort. Et ici, il y a deux visions encore qui s'opposent. Dans la litanie chrétienne, on chante ceci, d'une mort soudaine et imprévue, délivre-nous Seigneur. Voilà, une litanie. Un des chants dans la litanie des saints. Délivre-nous d'une mort soudaine et imprévue, délivre-nous Seigneur. Donc la bonne mort, c'est celle à laquelle on se prépare, celle qu'on vit en quelque sorte, celle qui, on pourrait dire, dans laquelle on entre avec conscience, avec courage même, peut-être, acceptant par là peut-être notre faiblesse fondamentale sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Et de ce point de vue-là, il me semble que c'est que la mort médiatisée, forcément, de Jean-Paul II a été très intéressante de ce point de vue-là, car au fond, si vous vous souvenez des circonstances, il a refusé d'aller à l'hôpital, il a refusé finalement un acharnement sur lui, et il est entré sereinement dans l'acceptation finalement de cette ultime étape de la vie, remerciant ceux qui étaient venus sur la place Saint-Pierre et finalement adhérant fondamentalement à sa nature limitée, sa nature humaine, comme tout un chacun en fait. Il est vrai que de nos jours, s'il fallait formuler une litanie, ce serait plutôt accorde-nous, Seigneur, une mort soudaine et imprévue. Il faut que ça frappe rapidement, sans qu'on ait le temps ni de penser, ni de réfléchir. Fabrice Hadjadj dit ceci, on voudrait être foudroyé dans l'instant, la pensée encore fixée sur le thé dansant d'hier ou sur son projet de vacances en Martinique. Voilà, foudroyé dans l'instant, sans qu'on puisse s'en apercevoir. Et où finalement on est littéralement volatilisé, anéanti. Et il me semble que ce phénomène d'une mort violente, finalement, mais qui est violente, elle est violente surtout pour les autres, hein. Elle n'est pas forcément violente pour nous, puisque nous ne nous en apercevons même pas, nous n'avons pas le temps de nous en apercevoir dans cet idéal de la mort. Mais il me semble que c'est renforcé encore par le phénomène de la crémation. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui va se décomposer lentement, selon un rythme de la nature, qui souvent peut-être épouse plus volontiers le rythme même du travail de deuil, est dans la crémation immédiatement détruit, anéanti. C'est-à-dire qu'on passe de quelque chose qui occupe un certain espace à pratiquement plus rien, et qu'on va peut-être, alors je crois que la législation a changé là-dessus, mais qu'on va même disperser. Et donc il y a quelque chose de très violent, y compris dans la gestion de l'accompagnement de celui qui est mort, c'est-à-dire de la cérémonie qui ne concerne que les vivants. Parce qu'évidemment, les morts, ce sont les vivants qui les enterrent. C'est le problème des vivants. C'est plus le problème des morts, évidemment. Et là, je vous lis juste le début du texte. Ben non, je ne l'ai pas, parce que c'est vous qui avez tous les textes. Donc vous lirez, parce que je l'ai pas pris sur moi. Tant pis. Mais je voulais alors, si, juste vous lire, 2 secondes, ce dernier texte de Saint-Exupéry, juste le début, qui est très beau sur justement, dans Citadelle, où il dit « Ainsi sachant le temps perdu en funérailles, car des hommes creusent la terre pour y enfermer la dépouille du mort, lesquels eussent pu consommer ce temps à labourer et à moissonner, j'interdirais cependant ces bûchers où l'on brûle les cadavres, car peu m'importe le temps gagné quand j'y perds d'abord l'amour des morts, car je n'ai point trouvé de plus belle image pour le servir que la tombe, où les proches vont cherchant à petits pas la pierre des leurs parmi les pierres, et le sachant rentré en terre comme une vendange et redevenu pâte naturelle, et sachant cependant qu'il reste en lui quelque chose, une relique dans son ossuaire, à la forme d'une main qui a caressé l'os du crâne, ce coffre au trésor, vide sans doute, mais qui fut rempli par de tant de merveilles. » Il exprime de manière très belle, très poétique, non pas sa préférence pour la non-crémation, on pourrait dire. Alors évidemment, derrière cela, il y a un enjeu de taille. Et cet enjeu de taille, je voudrais, en cette conclusion d'introduction, l'exprimer encore une fois avec ce livre, La mort et l'au-delà, à la fin de l'introduction de la deuxième partie, où Cardinal Ratzinger dit ceci, déshumaniser la mort a pour nécessaire conséquence de déshumaniser la vie. Quand on rabaisse la maladie et la mort au niveau d'une manipulation technique, on le fait aussi pour l'homme. Lorsqu'il devient trop dangereux d'assumer humainement la mort, la vie humaine aussi devient trop dangereuse. la conception de la vie se décide en même temps que celle de la mort. La mort devient ainsi la clé de la question, qu'est-ce vraiment que l'être humain ? Et la mort, c'est vraiment la question que je veux traiter derrière ce que je vais dire. Qu'est-ce que vraiment l'être humain ? D'où la question se pose vraiment, la perspective de la mort ôte-t-elle tout sens à l'existence humaine ? Alors, je traiterai quatre points. Premièrement, qu'est-ce que la mort ? Ensuite, quelques attitudes face à la mort. Avant de penser quelques morts exemplaires. Et puis, sur cette injonction de Platon, reprise par Montaigne, que philosopher, c'est apprendre à mourir. Peut-on apprendre à mourir ? Alors, d'abord, qu'est-ce que la mort ? Trois points sur qu'est-ce que la mort ? Premier point, si on se place du point de vue du médecin, on pourrait dire que la mort, c'est un constat. C'est un constat et un échec en même temps. Si on voulait plagier Alphonse Allais, on dirait les médecins ont de la chance parce qu'ils enterrent leurs échecs en même temps que leurs malades. Voilà. Bon. La phrase exacte, c'est l'avantage du médecin, c'est lorsqu'il fait une erreur, il l'enterre juste après. Donc, vous voyez, donc la mort pour le médecin est un constat. Je ne dis pas qu'il est facile. Mes parents étaient médecins, ils m'en parlaient souvent. C'est sans doute pas facile de se confronter continuellement, périodiquement à la mort, de l'accompagner, de personnes qui meurent dans vos bras. Mais le médecin va le constater, c'est l'arrêt des fonctions vitales, le cœur, le cerveau. On va essayer d'en repérer les causes. On va essayer d'établir peut-être des liens entre des événements, de mesurer des échéances, de voir la capacité des traitements sur la maladie, être capable de mettre ça en statistique, en tableau, dans le but sans doute de faire des progrès quant au traitement des différentes maladies qui conduisent à la mort. Et cela a plutôt bien réussi, puisque l'espérance de vie continue de reculer. Voilà. Mais pour le médecin, on pourrait dire qu'on est dans un simple constat, au même titre qu'on constate des naissances, qu'on constate ceci ou qu'on constate cela. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on pourrait dire que la mort, c'est un événement aussi, pas simplement un constat. Mais c'est un événement, et un événement qui va toucher l'autre. Car la mort, c'est, d'une certaine façon, toujours la mort de l'autre. De celui que je connais, auquel je suis attaché, ou bien du parfait inconnu. Et c'est pas moi qui meurs. C'est le fameux, je vais vous lire ce texte de Heidegger, le fameux « on meurt dans le monde ». On meurt dans le monde. Il dit ceci. Dans Être et Temps. La mort se rend compte comme un événement bien connu qui se produit dans le monde. En tant que tel, elle se maintient dans l'insurprenance qui caractérise ce qui se rencontre quotidiennement. Le « on meurt » répand l'opinion que la mort frappe, si l'on peut dire, le « on ». L'explication publique du Dasein dit « on meurt » parce que tout un chacun et nous « on » peut s'en convaincre. Ce n'est chaque fois justement pas moi, car ce « on » n'est personne. Le trépas est ramené au niveau d'un événement qui frappe sans doute le Dasein, mais ne concerne spécialement personne. C'est « on meurt dans le monde ». Je constate, parce que le mort, évidemment, du point de vue du mort, d'abord, on n'en sait rien. On ne sait pas ce qu'il constate, lui. Mais c'est bien moi qui constate, qui vit l'événement de ce que l'autre meurt. Hein, c'est la mort à la troisième personne, celle qui va arriver justement aux autres en tant que plus rien ne leur arrivera. Voilà, en tant que plus rien ne leur arrivera. Maintenant, cet événement, à la différence du constat, justement, il revêt souvent un caractère tragique. Parce que il est une rupture dans l'ordre de la relation. Et la mort de l'autre me touche parce qu'elle introduit de l'irrémédiable, de l'irréversible. Demain, on va recommencer. Demain, on va se lever, on va remanger, on va, etc. On va refaire une conférence, on va reprendre des activités qu'on fait quotidiennement. Quand on se confronte à la mort de l'autre, on s'aperçoit que là, il y a une rupture définitive. Qu'il y a du, en fait, il y a du jamais plus qui est introduit dans le monde. Du jamais plus qui est introduit dans le monde, qui renvoie à une séparation définitive, irréversible, et qui nous donne parfois effectivement du regret de ne pas avoir peut-être consacré du temps, plus de temps, de ne pas avoir été assez attentif à l'autre, de ne pas avoir été simplement présent, de ne pas avoir vécu plus intensément le temps de la relation. Certes, un conseil de sagesse de Marc Aurèle, c'était de dire « embrasse ton fils chaque soir, comme s'il mourait demain ». Non pas parce qu'il va mourir demain, mais comme si. Et donc, de donner l'intensité de la relation au moment où on la donne. Bien, ce qui n'enlève pas, malgré tout, ce qui n'enlève pas l'aspect du définitif, de l'irréversible, et du coup, les modes habituels de la communication à l'autre ont disparu, ceux par lesquels on avait l'habitude de passer. Et c'est vrai qu'on fait l'expérience, ça nous laisse démunis. On est assez démunis face à cela. On est démunis nous-mêmes. Et souvent, quand c'est la mort qui touche un proche, mais pas forcément le plus proche, on est aussi démunis dans la relation à l'autre, à celui qui a perdu l'être aimé, l'être cher. Et c'est toujours effectivement difficile de trouver les mots, et peut-être qu'il n'y a pas de mots d'ailleurs, il y a juste une présence. Et on s'aperçoit d'ailleurs dans la séparation d'avec l'autre que la dimension charnelle est porteuse quand même d'une densité à nulle autre pareille. On a beau savoir effectivement que même quand on pourrait dire ce qui fonde la relation à l'autre n'est pas simplement la simple présence physique de l'autre, mais c'est aussi la prise en charge dans une intériorité, dans notre volonté, dans notre intentionnalité de l'autre, il n'empêche, alors ce qui va être exclusivement cela quand la personne est morte, parce que je n'ai pas d'autre mode de relation, on a beau le savoir dans toutes relations habituelles, la dimension charnelle de la rencontre, eh bien, a une densité à nulle autre pareille. Et du coup, cet événement qui touche la troisième personne, en fait, quand on dit « elle ne touche personne », ça veut dire que comme c'est l'autre qui meurt et que c'est pas moi, effectivement, c'est pas moi qui meurs. Mais par contre, elle me touche dans le sens où elle introduit en moi une déchirure, une béance qui ne pourra jamais se refermer. De laquelle, d'une certaine façon, on ne se remet pas. Et il est peut-être heureux, d'ailleurs, qu'on ne s'en remette pas en un certain sens. Et bon, voilà. Alors ça, c'est la mort à la troisième personne, comme événement, mais comme événement tragique, de mon point de vue. Et puis, il y a la mort à la première personne, la mienne, celle qui va me conserver, qui va me concerner, et qui n'est pas un événement, mais un risque, qui est une menace. Ce n'est pas un événement pour moi, ma propre mort. Parce que, d'une certaine façon, on le verra avec Épicure, dans une première attitude, sans doute que je n'y serai pas présent. Bon. Donc, ce n'est pas un événement, mais par contre, c'est un risque. C'est un risque qui peut, car elle peut survenir, cette mort, à tout moment, parce qu'on s'attend à mourir, parce qu'elle est la menace qui accompagne toute existence. Et là, il y a un petit texte de saint Augustin qui exprime bien cette menace. Dans la Cité de Dieu, il nous dit ceci, on pourrait croire que Heidegger l'a repris. Il nous dit ceci. En fait, dès l'instant où l'on commence à vivre en un corps destiné à mourir, il n'est aucun acte qui ne soit un acheminement vers la mort. Car l'effet de l'instabilité du corps durant toute cette vie est de tendre vers la mort. Personne, en effet, qui ne soit plus proche de la mort au bout de l'année qu'au commencement, demain qu'aujourd'hui, aujourd'hui qu'hier, à l'instant qui va suivre qu'à l'instant présent, et maintenant qu'il y a un instant. Car tout le temps qu'on vit est pris sur la durée de la vie. Et comme ce qui reste diminue de jour en jour, le temps de cette vie n'est rien d'autre qu'une course à la mort, où il n'est permis à personne de s'arrêter, fût-ce un instant, ni de ralentir, tant soit peu sa marche. Bon. Alors il fait une espèce de description en cascade, hein, qui manifeste bien ce risque pour nous, comme sujet de notre comme risque de notre propre disparition, puisque on n'est plus près de la mort aujourd'hui qu'hier, à l'instant présent qu'il y a un instant, et maintenant qu'il y a un instant. Voilà. La vie est une course à la mort. Il n'est permis à personne de s'arrêter, hein, comme malgré d'ailleurs la supplication du poète, hein, souvenez-vous, le poète qui veut arrêter le temps, bon, bah, très bien. Mais pour combien de temps? Voilà. Alors, donc, vous voyez trois manières d'envisager la mort, le constat, l'événement tragique qui me touche, mais qui touche l'autre, et troisième point, le risque. Alors, face à cela, quelles attitudes peut-on observer, peut-on voir? Deux grandes. Le déni, que je vais décliner sous trois aspects, puis la révolte. Les hommes, dit Pascal, n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre heureux, de n'y point penser. Et donc le déni, il me semble, peut revêtir au moins trois formes. La discussion qui suivra peut-être en déterminera d'autres. Mais il me semble qu'il y en a trois. Il y a un premier qui est le déni logique. En préparant, en fait, j'ai découvert que ce qu'on pouvait prendre comme de la sagesse, comme un sommet de la sagesse antique, à savoir l'idée selon laquelle la mort n'est rien, parce que tant qu'on est vivant, on n'est pas mort, et une fois mort, on n'est plus vivant. La mort ne concerne donc ni les vivants, ni les morts. Il me semble qu'ici, Épicure, puisqu'on trouve ça dans la lettre à Ménécée notamment, fait un déni logique. C'est vrai que c'est imparable. C'est imparable de dire tant qu'on est vivant, on n'est pas mort. Bon, donc ça ne nous concerne pas. Et puis quand on est mort, on n'est plus vivant. Donc, vous voyez bien, ça ne nous concerne pas. Mais justement, alors la conclusion d'Épicure, c'est donc il ne faut pas craindre la mort. Pourquoi craignez-vous la mort, puisqu'elle n'est rien? Mais si, elle est quelque chose, puisqu'elle est un risque pour moi. Elle est un risque permanent. Donc elle existe bien. Elle existe bel et bien, cette mort. Elle va venir ruiner tous mes possibles. Elle va faire que, pour moi, les choses vont devenir impossibles. Même si la logique me dit le contraire. Même si la logique me dit, ben non, en fait, ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas, puisque quand tu es vivant, tu n'es pas mort. Et quand tu es mort, tu n'es plus vivant. Il me semble que c'est un certain déni logique. Alors la logique, comme disait Saint-Exupéry, point d'interrogation, qu'elle se débrouille pour rendre compte de la vie. Voilà. Une autre façon d'être dans le déni, c'est, comme le disait Pascal, de s'étourdir dans le mouvement même de la vie. C'est le divertissement pascalien. Le divertissement pascalien qui, finalement, est pitoyable à la fin. Je vous lis un petit passage de Nicolas Grimaldi, dans un livre qui s'appelle « Traité de la banalité ». Il dit ceci, « Aussi l'attitude la plus commune consiste-t-elle à se garder d'élever jamais son regard vers l'horizon. Or, il n'y a pas de plus sûr moyen pour s'en préserver que de fixer sans cesse son attention sur le plus immédiat. Le prochain rendez-vous, le prochain film, le prochain match, le prochain tiercé, le prochain week-end, les prochaines vacances ou le prochain avancement. » De même que tout l'horizon d'un politique se borne à celui des prochaines élections. Il est assez remarquable qu'en perdant de vue l'horizon de notre propre mort, nous perdions aussi le sens de l'absolu. Nous perdions aussi le sens de l'absolu. Et donc ici, c'est un déni dans le tourbillon, dans l'occupation. dans le fait que effectivement, tant qu'on est occupé à autre chose, eh bien, cela nous empêche de penser à notre terme, à notre mort, et donc c'est une forme de déni. Et la troisième forme de déni, il me semble, c'est ce qu'on pourrait appeler le défi, c'est-à-dire tâcher de s'approcher au maximum de la mort, comme pour la conjurer. Jouer sa vie comme le torero ou le pilote de Formule 1, rechercher des expériences extrêmes qui nous conduisent au bord, où on a l'impression qu'on va jouer effectivement sa vie, une sorte de rite d'initiation où on prend des risques inconsidérés, des conduites qu'on appelle à risque et qui ne sont pas effectivement, qui sont présentes dans la jeunesse. Souvent, effectivement, il y a derrière le défi de la vitesse, un défi vis-à-vis, c'est jouer d'une certaine façon avec sa vie. Bien. Malheureusement, effectivement, on peut perdre. Et effectivement, c'est toujours traumatisant pour ceux qui vont, d'une certaine façon, rechercher les personnes, et dans les accidents notamment. Et donc, c'est une dernière forme de déni. Le défi, d'être dans la défiance. Une autre attitude, c'est celle de la révolte. Je dirais que la révolte, elle est naturelle. Parce que finalement, la mort est un scandale. On n'est pas fait pour la mort. Il semblerait qu'on ne soit pas fait pour la mort. En tous les cas, tout en nous le rejette, tout en nous le repousse. Dans sa pièce de théâtre, Éric Emmanuel Schmitt, dans Le Visiteur, qui est un dialogue imaginaire entre un inconnu qui se fait passer pour Dieu et Freud, à un moment donné, donc Freud, l'inconnu dit à Freud, bon ben voilà, mais si vous aviez Dieu devant vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Et il va commencer par l'accuser de fausses promesses. Si je l'avais en face de moi, Dieu, c'est de cela que je l'accuserais, de fausses promesses. Et il va définir la mort, justement, comme une fausse promesse, comme une promesse qui n'est pas tenue et qui suscite chez nous la révolte. Il nous dit ceci, c'est assez bien écrit, je trouve. Le mal, c'est la promesse qu'on ne tient pas. Qu'est-ce que la mort, sinon la promesse de la vie qui court là, dans mon sang, sous ma peau, et qui n'est pas tenue? Car lorsque je me tâte, ou lorsque je me livre à cette ivresse mentale, le pur bonheur d'exister, je ne me sens pas mortel. La mort n'est nulle part, ni dans mon ventre, ni dans ma tête. Je ne la sens pas, la mort, je la sais, d'un savoir appris, par oui dire. Ça frappe par derrière, la mort. De moi-même, j'étais parti pour un tout autre chemin. Je me croyais immortel. Le mal dans la mort, ce n'est pas le néant, c'est la promesse de la vie qui n'est pas tenue, faute à Dieu. C'est la promesse de la vie qui n'est pas tenue, faute à Dieu. La mort comme promesse de la vie qui n'est pas tenue. C'est-à-dire, il me semble qu'on fait l'expérience en nous-mêmes de quelque chose, ne serait-ce que la conscience de soi, qu'on ne peut pas envisager comme néant. S'envisager comme néant, c'est s'envisager comme quelque chose. Envisager le néant après la mort, c'est au moins envisager moi qui constate qu'il y a le néant. Donc il n'y a pas le néant, il y a moi qui constate qu'il y a le néant. Et c'est ce qu'on retrouve dans une pensée du philosophe Spinoza, qui dans son Éthique dit, alors je vous le dis en latin, la traduction française, c'est « nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels ». On a dit ça, nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Et en latin, c'est sentimus experimurque nos esse aeternos. Donc la traduction, je ne reviens pas sur la traduction, simplement, il me semble que le terme de experimurque nos esse aeternos, le esse renvoie à un acte d'exister profond en nous. Il y a quelque chose en nous qui est de l'ordre de l'acte d'exister et qui a un rapport à l'éternité. Qui a un rapport à ce qui ne passe pas, qui ne va pas mourir, qui ne pourrait pas mourir. Et donc, rien en moi, évidemment, n'aspire, tout en moi, on pourrait dire, ni la mort. Tout en moi aspire à la vie. Et dans la Genèse, d'ailleurs, c'est assez intéressant, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, en lisant dans la Genèse, quand Dieu dit à Adam de ne pas manger de l'arbre du fruit, le fruit, pardon, de l'arbre, de la connaissance, il prévient que l'une des conséquences de la désobéissance serait de mourir de mort. Cette expression de mourir de mort, comme si, d'une certaine façon, il était prévu, sans qu'on sache à quoi ça pourrait véritablement correspondre, le passage d'une vie temporelle à une vie éternelle qui serait selon une autre modalité. Mais tu mourras de mort. Et donc, comme pour confirmer une intuition en nous, que la mort n'est pas pour nous, elle est un scandale, elle est l'expression finalement d'un mal radical. Nous répugnons à mourir parce qu'il y a quelque chose qui, dans la mort, est de l'ordre d'un mal radical. En aristotélicien, on pourrait même définir la mort comme une privation de la vie. Vous voyez, autant on peut définir la vie autrement qu'en rapport avec la mort. La vie est dynamisme et mouvement et création et fécondité et ouverture. Autant la mort, elle n'est que privation de la vie. C'est une négation. Et donc, de ce point de vue-là, elle apparaît comme un mal et même comme un mal radical. Mal qui va toucher le principe même de l'être. Parce qu'elle consiste à sentir le néant de notre vie, c'est notre vie qu'elle affecte. Non certes dans son existence, mais dans son principe. Comme une infirmité, non comme une infirmité physiologique, mais comme une déficience ontologique. Alors, la mort va toucher le principe même de la vie, en ce sens-là c'est un mal, non pas comme une infirmité physiologique simplement, mais comme une déficience ontologique, déficience de notre être, au niveau de notre être. Pourtant ce sentiment d'immortalité, ou du fait qu'on on ne se sente pas fait pour mourir, eh bien, me permet de faire une petite transition avec un petit poème de Lamartine qui nous dit ceci. Mais mourir, c'est souffrir, et souffrir est un mal. Amis, qu'en savons-nous ?